Bonsoir. Le groupe de soutien à la facilitation a consulté la semaine dernière les parties prenantes au dialogue national. Cette structure appelle tous les acteurs congolais à manifester leur sens de coopération aux facilitateurs désignés par l'Union africaine pour tenir un dialogue national inclusif. Pour la majorité, il n'est pas question d'échanger des facilitateurs, alors qu'une frange de l'opposition en fait un préalable avant la tenue du dialogue. Comment analyser cette situation? Nous en parlons avec professeur Bob Kabamba. Il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Bonsoir, monsieur Hiro.
Étienne Vivien Kalonji, il est politologue et analyste indépendant. Il est chercheur en questions pacifiques et de conflits. Bonsoir, Étienne Vivien Kalonji.
Bonsoir,
et Israël Moutala, il est analyste politique et économique. Bonsoir, monsieur Israël Moutala.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Dialogue national, le groupe de soutien international exhorte les acteurs congolais, toute sensibilité confondue, à faire preuve de dépassement et à ne ménager aucun effort afin de permettre le démarrage effectif du dialogue. C'est ce qui ressort des 3 jours des consultations menées par les membres du groupe de soutien avec les acteurs congolais ici à Kinshasa. Les détails avec Lievin Mwinga.
Dans un communiqué, le groupe de soutien a d'abord félicité le facilitateur pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en vue d'emmener les parties congolaises à demeurer engagées dans la voie du dialogue. Cette structure appelle tous les acteurs congolais à manifester leur coopération aux efforts du facilitateur de l'Union africaine pour tenir un dialogue national inclusif. Le groupe réaffirme l'importance qu'il accorde au lancement effectif et rapide du dialogue, et ce, conformément à la constitution de la RDC, aux instruments de l'Union africaine et à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le groupe s'engage aussi à poursuivre ses consultations auprès de l'ensemble des parties prenantes congolaises et des acteurs internationaux préoccupés par le risque d'instabilité en RDC afin de permettre aux facilitateurs de fixer une date pour le lancement rapide du processus devant aboutir au démarrage effectif du dialogue. Le groupe félicite les acteurs congolais, aussi bien de la majorité présidentielle que des partis politiques membres du rassemblement de l'opposition, pour la tenue pacifique et généralement ordonnée de leurs manifestations et réunions politiques tenues respectivement le 29 et 31 juillet 2016. Le groupe a enfin salué les mesures prises par le gouvernement en vue de l'apaisement de la situation politique, en particulier la libération de certains prisonniers politiques et l'excellente collaboration entre les autorités du pays, les partis politiques et la MONUSCO, qui a permis la tenue pacifique et généralement ordonnée des manifestations politiques de la majorité présidentielle le 29 juillet et du meeting du rassemblement des forces acquises au changement le 31 juillet.
Merci Lievin Mwinga, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Et comment comprenez-vous cette confiance que le groupe de soutien vient de renouveler en la personne d'Edem Kodjo, alors qu'une frange de l'opposition regroupée au sein du rassemblement les récuse et l'a même qualifié des kabylistes?
Oui, merci pour la question. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Radio Capim. Effectivement, il est en essayant de remettre un peu la question du jour dans son contexte. On doit bien se rendre compte qu'il y a véritablement un problème de méthodologie, un problème de compréhension et de la dynamique et du contexte dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que avec les positions des uns et des autres dans le contexte actuel, on se rend bien compte que il ressort que l'objectif d'abord d'un premier temps du dialogue, c'est de pouvoir aller aux élections, et au vu des tergiversations des uns et des autres, et au fur et à mesure que les choses n'avancent pas, on a plus l'impression effectivement que l'objectif d'élection n'est pas vraiment la priorité des différents acteurs et protagonistes sur le terrain. Et je m'explique, on a plutôt l'impression qu'actuellement, nous assistons au fait à une espèce de démonstration de force entre les différentes forces politiques. Dans un premier temps, nous avons eu effectivement le retour de Félix Tshisekedi qui se fait avec la mobilisation qui s'en est suivie. Ensuite, nous avons eu les meetings de la majorité présidentielle avec la mobilisation qui s'en est suivie et aussi les meetings de l'opposition. Et donc, lorsque l'on analyse ces différents événements, on se rend bien compte qu'il s'agit pour les différentes forces en présence de montrer qui mobilise le plus et qui pèse le plus. Et maintenant, on a, après avoir eu cette démonstration des forces, on a effectivement ce nouvel épisode qui concerne la récusation du facilitateur. Là aussi, ça va créer quoi? Ça crée un objectif qui est de blocage. Et donc, de toute façon, dans l'analyse, on a vraiment l'impression que maintenant, nous sommes entrés dans une phase assez délicate au niveau de la RPC, où le dialogue doit aller aux élections, mais finalement, on se rend bien compte que de blocage en blocage, on n'est pas nécessairement prêt pour aller au dialogue et d'aller aux élections qui doivent découler de ce dialogue avec calendrier, financement, sécurisation, etc. Et donc ça me pose vraiment une question fondamentale qui est finalement celle de savoir est-ce que finalement ce dialogue de peuple pendu a tout son sens et doit se tenir dans un contexte où finalement chacun a ses positions et ne veut pas changer par rapport à ses positions et qui va ramener à un blocage, de blocage en blocage, et on perd du temps, et plus on perd du temps, et plus on ne peut pas aller aux élections dans des meilleures conditions.
Oui, professeur, j'ai vous demandé comment vous analysez ce soutien, n'est-ce pas, que réitère, n'est-ce pas, les doubles soutiens à l'endroit de monsieur Kodjo, en dépit du fait que cette personnalité est récusée par l'opposition.
Il va de soi que la communauté internationale, par la prémisse du groupe de soutien, ne peut que renouveler la confiance au facilitateur. Parce que si vous vous souvenez, combien de temps il a fallu pour choisir un facilitateur qui, dans un premier temps, n'a pas été accepté par tout le monde et qui, finalement, a été accepté par tout le monde, vous imaginez que si on revient encore à choisir un nouveau facilitateur, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons encore arriver à perdre beaucoup de temps. Non seulement beaucoup de temps, mais aussi perdre l'objectif réel de ce dialogue qui serait les élections telles que cela a été dit. Donc, à soutenir le facilitateur, c'est refuser, de mon point de vue, par la communauté internationale, le fait de perdre encore du temps dans la convocation du dialogue qui doit aboutir aux élections que tout le monde attend, mais malheureusement, on a l'impression que la classe politique congolaise n'a pas vraiment envie d'aller à ces élections.
Oui, vous dites que soutenir les facilitateurs pour la communauté internationale, c'est refuser le fait de perdre encore du temps pour aller à ces dialogues. Mais cette position des groupes de soutien ne reflète-t-elle pas l'embarras dans lequel se trouve cette communauté internationale? Parce qu'en fait, s'il avait pris acte de la récusation des Edem Kodjo, elle n'aurait pas été accusée de prendre fait cause pour un camp contre un autre?
Oui, ce n'est pas tout à fait faux. Mais il faut bien se rendre compte que pour l'instant, tout le monde est piégé. Aussi bien la majorité présidentielle est piégée dans le processus qui a été mis en place, aussi bien aussi la communauté internationale qui a appelé de toutes ses voix la tenue de ce dialogue, et aussi l'opposition qui se retrouve aussi piégée dans le processus de ce dialogue. Je m'explique, parce que quand on parle effectivement dialogue, c'est par rapport à des objectifs. Malheureusement, chaque groupe, la communauté internationale aussi, ont leur objectif. Et leur objectif et leurs ambitions ne collent pas avec les ambitions de la majorité présidentielle et ne collent pas non plus avec les ambitions de l'opposition. Et on se retrouve effectivement au milieu où chacun doit rester sous sa position et pour rester sous sa position, malheureusement, nous nous retrouvons dans un certain piège qui va faire en sorte que ce dialogue, bien qu'il ait déjà annoncé depuis plusieurs mois, va encore malheureusement traîner encore plusieurs mois aussi, puisque nous sommes déjà au mois d'août, bientôt ce sera le mois de septembre, et vous vous souvenez, par rapport à l'ancien calendrier qui a été publié par la CENI, ben, il faudrait qu'il y ait convocation de l'électorat par rapport aux élections qui doivent avoir lieu avant la fin de l'année, si la CENI n'a pas encore publié un nouveau calendrier d'ici là.
Professeur Bokabamba, par principe, dès lors qu'un facilitateur est désavoué par l'une des parties, et logiquement, il devient difficile pour ces facilitateurs de pouvoir jouer, n'est-ce pas, son rôle. Et en tranchant en faveur des Kodjo, le groupe de soutien est naturellement conscient, n'est-ce pas, de cette réalité. Comment vous entrevoyez la suite?
Tout à fait. Généralement, il arrive, effectivement, vous avez raison, quand on dit que lorsque l'une des parties récuse effectivement les facilitateurs ou le négociateur, cela est ce qu'on appelle objet de blocage et d'échec, mais il y a toujours des atouts et des stratégies pour essayer de contourner la difficulté, notamment en ayant recours, ce qui a été le cas dans le cadre de la facilitation ici, le cas du groupe de contact, et qui a joué un rôle, ce qu'on appelle un rôle de médiation, c'est-à-dire aller revoir les différentes parties pour essayer de les ramener à la raison, si raison est encore un mot que tout le monde comprend, de les ramener à la raison pour que toutes les parties reviennent au point de départ, c'est-à-dire au point de la facilitation. Et c'est ce que le groupe ne peut que faire ça, c'est-à-dire essayer de voir l'opposition, essayer de voir les uns et les autres pour que les ramener à ce que Edem Kodjo puisse rester facilitateur.
Merci. Etienne Vivien Kalonji, vous êtes politologue et analyste indépendant, vous êtes aussi chercheur en résolution pacifique de conflits. Votre analyse par rapport à cette question? Allô, Étienne Vivien Kalonji? Voilà, apparemment nous l'avons perdu. Israël Moutala, je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Comment vous analysez ces débats au sujet de la question sur les dialogues?
Bon, sur le dialogue, cette question de la récusation de Kodjo est une question, comme l'a dit le professeur, qui cache des agendas différents selon que l'on est communauté internationale, selon que l'on est majorité au pouvoir et selon que l'on est opposition. Et même quand on parle d'opposition, il faut relativiser. Le rassemblement est une portion de cette opposition qui est aussi plurielle. Dans l'opposition, vous avez le MLC qui dit qu'il n'a rien à voir avec le dialogue, qui ne veut même pas y participer. Vous avez l'UNC de Vital Kamerhe qui était très réticent pour participer au dialogue, et c'était une concession majeure que Vital Kamerhe a fait par rapport à certains de ses cadres, une dynamique interne qui était pour un fléchissement, pour une position plus consensuelle, pas plus radicale, qui voulait à ce que l'UNC participe au dialogue. Et finalement, Vital Kamerhe a cédé par rapport à cette ligne de son parti, et il a finalement accepté d'aller au dialogue et tout ça. Et il va au dialogue, lui ne récuse pas de facilitateur Edem Kodjo. Vous avez la frange importante aussi de l'opposition, incarnée par le rassemblement, que chapeaute Étienne Tshisekedi. Et justement, lui d'abord, Tshisekedi, était favorable, le premier à être favorable au dialogue pour résoudre la crise politique et électorale actuelle. Et après, ils ont constitué justement cette plateforme importante avec les pro-Katumbi, G7 principalement et AR, et avec eux, le G7, au début, il n'était pas favorable au dialogue, mais voulait une forme plus souple du dialogue, c'est-à-dire un dialogue entre deux parties, majorité et opposition, pas besoin de s'encombrer d'un format plus large, d'une société civile complexe, voilà. Donc il voulait un format simplifié, donc il n'était pas très en phase avec le dialogue dans son format premier. Et donc c'est cette frange là-bas du rassemblement des forces pour la défense des valeurs démocratiques qui est justement opposée aujourd'hui à Edem Kodjo. Mais bon, qu'est reproche-t-on à Edem Kodjo? C'est ça la grande question. J'ai suivi le meeting de Étienne Tshisekedi sur la place triomphale qu'il a traité de kabyliste. Bon, que signifie être kabyliste? Est-ce que cela signifie qu'il est plus favorable aux thèses du pouvoir? Est-ce que cela signifie qu'il n'a pas été suffisamment attentif aux désiderata du rassemblement? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi le récuse-t-on? Le récuse-t-on parce que il a convoqué, comme on l'a entendu de certains cas de l'UDPS, précipitamment le comité préparatoire. Bref, que reproche-t-on exactement à Edem Kodjo? Bon, il est vrai déjà que le profil d'Edem Kodjo n'était pas le bon profil pour ce rôle de facilitateur.
Pourquoi ce n'était pas le bon profil?
Edem Kodjo n'est pas reconnu.
Il a une expérience, n'est-ce pas, dans ce genre
situation. Il a une expérience d'homme d'État indéniable. Il a une expérience de diplomate pour avoir dirigé l'ex-OUA, l'actuelle Union africaine.
Il a les rôles de facilitation dans beaucoup de conflits.
Mais tout à fait. Mais Edem Kodjo, c'est pas une référence, une figure démocratique de l'Afrique. Donc sur ses épaules, il n'a pas un rayonnement sur le plan de la défense des droits humains, sur la promotion de la démocratie. Donc ça, justement, personne sur le continent ne peut reconnaître.
Là, c'est par rapport à son pays ?
Par rapport à son pays, bien sûr, parce qu'il a été plusieurs fois ministre et même premier ministre. Voilà. Mais bon.
Des faits, Gnassingbé à des mains.
Tout à fait. Et donc, ce profil-là, pour certains opposants, n'était pas le bon. Mais est-il que, d'abord, la question d'avoir une médiation dans un conflit interne à notre pays était une demande de l'opposition et c'était une concession de la majorité. Alors, aujourd'hui, finalement, d'abord, comme je l'ai dit tantôt, le profil d'Edem Kodjo ne plaisait pas à tout le monde à l'opposition, mais quand vous revenez au fond du dossier, vous vous rendez bien compte que le blocage actuel, justement, par rapport aux revendications de l'opposition, les solutions ne se trouvent pas vraiment entre les mains d'Edem Kodjo. Et sur la question, par exemple, de la libération de prisonniers politiques et d'opinion, la responsabilité par rapport au dénouement de cette question, Edem Kodjo a très peu d'influence, justement, par rapport à cette demande.
Et à ce sujet, le sénateur Chio Kitundu, qui est cadre de la majorité présidentielle, a affirmé que le président de la République a déjà fait un geste important en libérant des militants du mouvement citoyen La Lucha et que des mesures de liberté provisoires sont envisagées, tout comme la réouverture de certains médias. Donc la majorité dit qu'ils ont fait, n'est-ce pas, des concessions et qu'il appartenait maintenant à l'opposition de faire les siennes, notamment en arrêtant ces appels au soulèvement populaire.
Oui,
c'est le propos de Chio Kitundu.
Je comprends Chio Kitundu, mais moi je situe ces propos dans un contexte. Donc nous partons d'abord de la responsabilité de qui a fauté pour que nous en soyons dans cette crise. Si les élections étaient organisées dans le délai constitutionnel, si on avait la certitude d'avoir les élections cette année-ci, comme le prévoit la Constitution, il n'y aurait même pas l'opportunité d'un dialogue. Donc l'opportunité du dialogue aujourd'hui, c'est pour résoudre une crise politique qui découle justement du fait qu'on a un système, on a un processus électoral illisible. C'est ça la crise.
Merci.
Et donc, moi je pense que la libération de militants de la Lucha, c'était une libération qui n'est pas allé dans le sens des attentes de l'opposition. Les attentes de l'opposition, c'est des gestes forts. Les gestes forts, c'est la libération, par exemple, de Diomi Dongala, qui est le bras droit de Tshisekedi dans ce qu'on avait appelé la majorité présidentielle populaire.
Tout cela est envisagé. C'est ce qui a été
dit.
Non.
Mais pourquoi c'est envisagé? Il y a un blocage important.
Merci.
Il y a un pays qui est au bord d'une crise profonde.
Merci.
Alors, mais allez-y au fond de choses en libérant tous les prisonniers politiques, les vrais. J'aimerais terminer par là. Donc, ça veut dire que les noms qu'on avance, les jeunes de la Lucha, ils étaient à 2 semaines de quitter la prison. Donc, ce qui intéresse principalement les opposants, c'est toute la garde rapprochée de Katumbi, c'est Muyambo, c'est Christopher Ngoï.
Il y a une trentaine de personnes.
Tout à fait, une trentaine de personnes.
Merci, donc, il y a des noms qui connaissent. Etienne Vivien Kalonji, politologue et analyste indépendant et chercheur en résolution pacifique des conflits. Est-ce que vous êtes là, Etienne Vivien Kalonji?
Oui, je suis très bien là. Très
voilà. Comment vous analysez cette question?
En fait, nous trouvons que la question dialogue demeure de plus en plus parce que c'est devenu un lieu commun où dans toutes les bouches, dans tous les médias, on en parle et c'est de l'actualité. Et ce qui est vrai, que la raison d'être même de ce dialogue apparaît maintenant tout à fait floue parce que il doit y avoir dialogue dans le chef des compatriotes pour décrisper une situation donnée, des crises qui s'annoncent. Mais apparemment, les opérateurs politiques au Congo ne sont pas prêts pour organiser un vrai dialogue où il y a dans ces concepts-là un problème de conscience et un problème d'appel à la raison. un problème de conscience, parce que lorsque vous tendez la main à un compatriote, vous allez avec votre conscience. Vous voyez le mal s'annoncer de loin et vous dites non, il va falloir trouver une solution apaisée avec un compatriote. Et il y a un problème de raison. Donc vous cherchez à ce que la raison puisse triompher pour que le Congo puisse aller de l'avant. Et lorsque nous analysons la situation, nous trouvons que il y a un appel au dialogue qui cache quelque chose, une stratégie de se pérenniser au pouvoir, et de l'autre camp, une dénonciation aussi de cette stratégie-là dans le chef de l'opposition. C'est-à-dire la majorité, en appelant déjà au dialogue, c'est déjà une stratégie montée pour contourner la question électorale et entrevoir déjà une alternative de la transition, afin de trouver les marges de manœuvre de se pérenniser aux affaires. Et l'opposition, ayant constaté cela, se cramponne dans sa position de dénonciation, sans pour autant entrevoir une alternative crédible qui pourra décanter la situation, parce que lorsque vous soupçonnez votre compatriote de manigancer quelque chose et que vous croisez les bras, vous êtes en quelque sorte aussi coupable de cette attitude tout à fait inactive. C'est pourquoi nous disons que comme la question de la conscience et de la raison n'est pas dans le chef des deux partis, que ce soit dans le camp de la majorité, donc la question dialogue demeure une supercherie que nous ne pouvons plus encore beaucoup plus croire. Parce qu'il faut s'entendre ici dialogue dans le format des négociations. Nous sommes devant un gouvernement qui n'a pas su répondre à l'obligation constitutionnelle, qui consiste à organiser les élections dans le délai prévu, celui du chef de l'État. Parce que quand nous nous attelons au chef de l'État, c'est le premier d'entre tous les élus. Tous les autres élus sont élus dans des circonscriptions bien déterminées. Mais celui qui peut se taper la main dans la poitrine pour dire que je suis le premier d'entre les élus, je suis l'homme le plus légitime auprès de toute l'opinion nationale congolaise, c'est le chef de l'État. C'est pourquoi notre constitution en a fait une obligation constitutionnelle. Donc, si nos politiques étaient responsables, il aurait fallu à ce stade ici qu'on voie réellement cette volonté manifeste d'organiser les élections et le Congo allait triompher pour qu'une alternance puisse réellement se voir. Mais actuellement, c'est maintenant un problème d'intérêt de groupe où chacun essaie de développer un discours accusant l'autre. Mais ce que je fustige est l'attitude coupable de l'opposition, qui jusque-là, ayant constaté effectivement qu'il n'y aura pas des élections, mais il tarde le pas, parce que connaissant que dans le format dialogue, il y a beaucoup de pièges à boire et à manger. Et à ce stade-là, il demeure inactif. Il demeure inactif pour ne pas entrevoir, n'est-ce pas, la stratégie du combat non-violent, qui est une stratégie noble dans toute démocratie, parce que notre démocratie nous donne cette liberté d'expression et de manifestation. Et donc nous devons jouir de cela par notre attitude comportementale.
Oui, Étienne Vien Kalonji, vous semblez fustiger l'opposition en disant qu'elle demeure passive parce qu'elle ne propose pas d'alternative et ses limites, n'est-ce pas, à dénoncer les stratagèmes de la majorité présidentielle, mais sans proposer des méthodes de lutte pacifique. Mais on s'est rendu compte que jusque-là, l'opposition n'a fait que, n'est-ce pas, utiliser des méthodes pacifistes, n'est-ce pas, des démarches, des meetings. Et pourquoi vous la fustigez alors qu'elle n'a pas, jusque-là, elle n'a pas appelé les gens à la violence?
J'aime beaucoup votre sens de bien comprendre les choses, mon frère compatriote Guy Maté. Vous avez bien épinglé le terme pacifique parce que c'est un terme qui amène à la lâcheté. Un pacifiste est prêt à remettre toute chose qui peut entrevoir. Donc, la capacité de résignation se trouve beaucoup plus avancée dans l'action pacifique. Voilà pourquoi nous, dans la résolution non violente des conflits, nous proposons beaucoup plus l'alternative non violente, la résistance active non violente, parce que le pacifisme amène beaucoup plus à la capacité de résignation. Voilà pourquoi vous voyez les opposants organisés des manifestations sans une préparation réelle et sérieuse au départ. lorsque vous organisez une marche, mais vous n'avez pas le temps de préparer un corps de volontaires, des personnes capables de quadriller vos actions pour qu'elles demeurent dans la non-violence et dans un dynamisme événementiel, vous vous attendez à la spontanéité des masses qui viennent vous répondre par les caprices d'un leader charismatique, mais à la longue, ces actions vont s'avérer nulles, parce qu'il suffit d'être réprimé et tout le monde va fuir dans tous les sens pour ne plus prendre courage et de retourner dans la rue, en fait, d'enclencher l'autogestion du processus décisionnel. Merci voilà bien. Là où je fustige notre opposition, qui jusque-là n'a pas d'alternative crédible. Mais du côté du pouvoir, ce que je suis en train de voir et ce que je suis en train d'analyser, le pouvoir n'est pas prêt à lâcher leurs prérogatives, c'est-à-dire la majorité au pouvoir. Mais ce qui est beaucoup plus choquant est de voir qu'ils ne présentent pas une alternative crédible dans leur milieu.
Merci.
Il aurait fallu qu'à ce stade qu'il y ait nécessairement une alternative dans leur camp pour celui qui va remplacer le chef de l'État actuel. Parce qu'ils se disent un groupe qui ont eu à démêler pendant très longtemps. Nécessairement, dans leur cas, il devait y avoir quelqu'un qui devait déjà être annoncé comme étant dauphin du chef de l'État. Mais nous ne voyons pas cela. Nous voyons maintenant une communication politique du chef de l'État qui s'exprime comme étant encore un nouveau candidat, alors qu'il est à son second et dernier mandat. C'est ce qui est inquiétant.
Merci.
Parce que si on voit même une démocratie des façades qui s'était passée en Russie, nous avons vu Medvedev avec Poutine, ils ont fait de sorte pour préserver leur pouvoir dans leur camp.
Merci Étienne, via Kalonji, nous avons compris. Professeur Bokabamba, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bounia.
Luc Malimbe depuis Bounia, province de l'Ituri. Il est difficile de comprendre l'attitude du groupe de soutien à la facilitation du dialogue. Pourtant, constitué pour la plupart des diplomates, je me demande pourquoi le groupe de soutien s'entête à maintenir un facilitateur qui visiblement n'a pas la confiance de toutes les parties prenantes au dialogue, sachant que cela est une des conditions majeures dans toute négociation. Ceci ne fait que passer du temps, alors que la Constitution est contraignante en ce qui concerne le délai de l'organisation de l'élection présidentielle, donnant ainsi raison à ceux qui accusent la communauté internationale et même l'opposition congolaise de jouer au jeu de la majorité visant à tout prix à maintenir le président Kabila au pouvoir en violation de l'actuelle constitution.
Professeur Bokabamba.
Merci pour la question. Donc, il faut bien savoir que lorsque l'on rentre dans un processus de discussion et de négociation, rarement on a vu que les négociateurs ou les facilitateurs ou même les médiateurs ne soient pas contestés ni ne soient pas, qu'il n'y ait pas vraiment une grande confiance de la part des différents acteurs. Ça arrive très souvent dans beaucoup de négociations. Je peux vous donner la liste, par exemple, à l'époque de Nelson Mandela, avec Kabila Père et le président Mobutu. On a accusé Nelson Mandela de pouvoir prendre la partie pour Mobutu et de ne pas ménager le président Kabila Père. Et donc, on a plusieurs cas comme ça où, effectivement, les médiateurs n'ont pas toujours la confiance de toutes les parties. Et c'est pour ça qu'il y a justement le groupe de soutien qui a comme rôle justement d'essayer de compenser les torts que l'on a remarqués dans le cadre du facilitateur. Et ce groupe de soutien joue un rôle, on va dire, qu'on appelle en théorie des négociations, joue un rôle de médiation, c'est-à-dire on essaye par tous les moyens d'arriver chaque fois à ce que la confiance puisse revenir entre les différentes parties. Vous vous souvenez que pendant tout un temps, Eden Kodjo n'avait pas non plus eu l'adhésion ni de toutes les parties, mais il a fallu que la communauté internationale intervienne en mettant justement en place ce groupe de soutien comme un élément qui amène un soutien et qui permet justement d'essayer, dans la mesure du possible, de faire que Eden Kodjo soit devienne acceptable par les différentes parties. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, puisque ce n'est qu'un groupe de soutien. Ça veut dire que ce n'est pas un groupe qui pèse dans les discussions et même dans les options qui doivent être élevées. Ça veut dire simplement que c'est un groupe qui ne fait qu'apporter une médiation. On peut modifier le profil de ce groupe pour essayer de lui donner plus de poids, en fait, qu'il puisse peser un peu plus. Dans ce cas-là, on renforcerait bien sûr la position qu'a défendue l'opposition, c'est-à-dire en ayant un quartet, c'est-à-dire ajouter aux facilitateurs d'autres diplomates comme les États-Unis, la et la, comme les États-Unis et les envoyés spéciaux de différentes organisations internationales. Et donc, et c'est ça aussi qui est, de mon point de vue, assez délicat. Mais au-delà de cette question, je répète et je le dis, au-delà de cette question, il ressort maintenant de manière claire que le dialogue tel qu'il est préconisé et tel qu'on est en train de voir comment il se met en place est en train de devenir un piège pour tout le monde et il ne va pas, il n'aboutira pas, il accouchera d'une souris parce que tout simplement les différentes parties, chacun ne veut pas aller au dialogue avec les objectifs et les enjeux des autres. Et la médiation et le groupe de soutien n'arrivent pas à essayer d'arriver à avoir ce qu'on appelle dans les dialogues, dans les cadres de négociations, un point commun, c'est-à-dire un dénominateur commun sur lequel les différentes parties doivent discuter. Or, rien que sur cette question-là, on se rend bien compte que ça risque de ne pas marcher. L'opposition veut prendre le pouvoir le 19 décembre. Ils veulent être au pouvoir le 19 décembre et que Kabila quitte le pouvoir le 19 décembre. La majorité ne veut pas de cet objectif de l'opposition, veut qu'il puisse y avoir des élections qui soient organisées avec un nouveau calendrier, etc., etc., pour avoir ce qu'on lui reproche d'avoir le glissement pour le président Kabila. Et la conciliation entre le 19 décembre, où l'opposition veut prendre le pouvoir, et la position de la majorité, la médiation, la facilitation ne parvient pas à essayer de se mettre d'accord sur ces deux options et qui continuent à bloquer et on utilise des superfuges lorsque l'opposition récuse le facilitateur, c'est tout simplement parce que il se rend bien compte que là, l'opposition à eux, le 19 décembre pour qu'il soit au pouvoir, ne va pas marcher dans le cadre de la façon dont cela est en train de se passer.
Merci.
Donc c'est ça aussi la question et le blocage que l'on a, et que je pense que ce blocage ne va pas nécessairement va s'éterniser encore plusieurs mois.
Merci Israël Moutala, il y a aussi une question qui vous est adressée, elle vient de Kananga.
De Kananga au Kata central. Je trouve que le groupe de soutien a totalement raison. Sinon, le rassemblement risque de jouer le jeu du pouvoir, qui est celui de retarder des élections. Le rassemblement ne veut pas aimer une chose et son contraire. Allons d'abord au dialogue. Si on trouve que certains points à l'ordre du jour ne concordent pas avec le canevas, là, nous serons obligés de quitter ce fameux dialogue. Prenons d'abord conscience.
Oui, Israël Moutala.
Bon, je vois pas la chose de la même façon. Ça veut dire que il faut comprendre quand même que le rassemblement, l'opposition dans son ensemble, est du bon côté de l'histoire. Ça veut dire que eux, ils ne jurent que par le respect de la Constitution. Et donc la Constitution, quand on essaye de la comprendre dans son esprit et dans sa lettre, elle veut qu'il y ait un processus politique pacifique au terme des élections libres, équitables et transparentes à des échéances prédéfinies, bien déterminées. Donc,
comment saura-t-on quelles sont les évidences qu'on a, les faits que l'on a pour dire que l'autre camp n'a pas l'intention de respecter la Constitution si on ne va pas au préalable accepter, n'est-ce pas, de se mettre en face de ces camps-là, de parler avec ces camps afin de déceler ces intentions?
Mais bon, les intentions de ce camp-là sont connues, parce que les intentions de ce camp-là sont connues. Et donc, le camp avait développé d'abord plusieurs théories. Il avait commencé par une théorie de la révision constitutionnelle. D'une révision constitutionnelle, il y a eu la théorie de la modification de la Constitution. Et après, il y a eu plusieurs théories sur le mode de scrutin pour que l'élection présidentielle se fasse de manière indirecte. Bref, il y a eu plusieurs théories. Et donc, même...
ces camps, les camps présidentiels, a toujours parlé d'un procès d'intention. Maintenant, par rapport à la position de l'auditeur de Kananga, lui estime qu'il faut, d'abord aller écouter, n'est-ce pas, ce que ces camps va dire, va proposer, n'est-ce pas, à ces dialogues. Et si on estime qu'on n'est pas d'accord, là on aura des faits pour dénoncer, n'est-ce pas?
Oui.
Mais dès lors que les faits ne sont pas encore là, dès lors qu'il n'y a pas d'évidence...
Non, mais le problème, c'est ça le problème. Les autres n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas y aller. Ils disent que pour que nous y allions, il faut que l'arbitrage puisse rassurer les uns et les autres. Quand je parle d'arbitrage, je parle du facilitateur. Et donc, ils ont pensé que le facilitateur était facilement influençable par la majorité au pouvoir. Et donc, ils ont demandé à ce que le groupe de soutien soit transformé aussi en groupe de facilitation. Et donc, c'est la question justement de l'arbitre, pour voir qui est de bonne foi et qui ne l'est pas.
Vous avez suivi le professeur Bob Kamamba qui a dit que en renouvelant son soutien, n'est-ce pas, à Edem Kodjo, le groupe de soutien, a voulu faire savoir, n'est-ce pas, à l'opposition qu'on ne veut pas laisser passer le temps. Vous ne pensez pas que la classe politique pourrait un jour regretter ce moment que nous sommes en train de passer? Parce qu'aujourd'hui, si la crise éclate, on sait comment la crise éclate, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine? Est-ce qu'on ne va pas regretter le temps qu'on a de laisser passer? Vous ne pensez pas qu'on pouvait profiter de ce temps pour essayer de prévenir cette crise qui se profile à l'horizon?
Je suis parfaitement d'accord qu'il vaut mieux se parler, mais encore faudra-t-il savoir de quoi se parle-t-on et pourquoi se parle-t-on? Sommes-nous de bonne foi? Et donc, moi, je pense que aujourd'hui, même parler des négociations, comme je le dis souvent, est un échec. Et donc, aujourd'hui, on ne devait pas parler négociations, on ne devait pas parler dialogue. Aujourd'hui, on devait parler élections en septembre. On devait déjà avoir les déploiements, on devait déjà avoir des campagnes civiques, on devait déjà avoir des programmes de gouvernement, de débats informels, bref. Aujourd'hui que nous n'en soyons pas là et que nous parlions, au lieu de parler des élections cette année, nous parlons de leur probable, très très probable report. C'est justement là le recul, c'est là que se pose le problème. Et donc, il faudrait absolument peut-être dialoguer pour faire en sorte que ce glissement technique qui découle justement d'une négligence politique ne cause pas du tort au pays.
Merci, Etienne Vivien Kalonji. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Bukavu, Sud Kivu.
C'est ça, Abadiavo, qui vous appelle depuis la province de Sud Kivu, ville de Bukavu. C'est quand même aberrant que l'opposition cherche toujours à multiplier des raisons pour la non-participation au dialogue. Pourtant, à la ligne où vont les choses, tout laisse à croire qu'il n'y aura pas élection en cette année. La majorité s'est résolument décidée de violer la Constitution en maintenant le président Kabila au-delà du délai constitutionnel. Je pense que si les politiciens, parce que je suis majorité et opposition, étaient pour la tenue des élections dans le délai, ces derniers devaient trouver un consensus pour nous éviter le bain de sang inutile.
Etienne Vivien Kalonji?
Oui, j'en profite pour saluer ce compatriote-là. Mais j'interviens directement pour lui dire que ces discours d'éviter le bain de sang, très cher compatriote, il faut vraiment l'arrêter. Parce que si on aime son compatriote, on ne peut pas chercher à verser son sang quand il réclame quelque chose dans la non-violence. La Constitution nous donne ce droit-là de nous exprimer librement et de manifester librement. Je ne sais pas de quelle autorité nous avons toujours le courage de croire que le pouvoir qui bénéficie des puissances publiques a bel et bien l'autorité sacro-sainte de pouvoir verser le sang de ceux qui contestent sa manière de gestion. Ça, c'est une ignorance que nous devons tout simplement rejeter. Ne croyez pas, très chers compatriotes, que quand vous manifestez ou quand vous vous exprimez, et que ceux qui nous dirigent ont totalement le droit de verser notre sang. Ça ne peut pas se faire. La question est ici de respecter la Constitution. La longévité d'une nation passe par le respect de sa Constitution. Lorsque nous observons même la Constitution des États-Unis d'Amérique, qui fait la fierté de cet État, n'a jamais été taillé sur mesure ou revisité à tout moment comme un habit qui ne vous convient pas et vous devez le modifier chez un tailleur. C'est ça le problème. Même lorsque nous rentrons dans ces formules de dialogue que nous pensons que c'est là où nous allons trouver la solution, mais c'est tout simplement une ignorance notoire. Parce que nous ne pouvons pas, c'est ça d'ici, je rejoins mon co-débatteur Israël Moutala, rentrer sur l'actualité du dialogue. Nous devons être fiers de nous, Africains. À ce stade ici, on devait tout simplement fournir assez d'efforts pour que nous puissions comprendre que nous avons enclenché un processus démocratique et que nous devons aller avec celui-là jusqu'à la fin.
Etienne Vivien Kalonji?
Oui.
Oui, qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour débloquer le processus du dialogue et prévenir, n'est-ce pas, cette crise qui se profile à l'horizon?
Il faut que le facilitateur
qui n'a pas un bon profil puisse accepter de se faire accompagner avec un groupe de facilitation.
C'est déjà fait. Il y a le groupe de soutien qui joue le rôle des co-facilitateurs.
Le groupe de soutien ne joue pas le vrai rôle dont on a besoin. Parce qu'il faut que quand on fait le décryptage sur la personne de M. Den Kodjo, il est l'émanation du lobby sud-africain. Ça, on doit laisser le dire. Moi, je suis politologue, je dois vous le dire. L'influence économique à l'Afrique du Sud sur le Congo, avec l'histoire de Barazinga, vous verrez que la dame qui est actuellement à la commission présidentielle de l'Union africaine...
Madame Dlamini Zuma.
Oui, c'est une ancienne diplomate sud-africaine qui a été hissée là-bas par le lobbying et l'émanation du pouvoir... de la politique sud-africaine. Et cette influence, pourquoi a-t-elle seulement choisi un monsieur comme son excellence monsieur Den Kodjo? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de démocrates. Le Togo n'est pas un exemple de démocratie pour venir résoudre le problème de démocratie au Congo.
Merci Étienne.
Donc je fais ici recourir à des démocrates qui sont crédibles auprès de l'opinion internationale.
Merci
donc
Étienne.
Il y en a beaucoup de ces frères africains qu'on pouvait recourir. C'est pourquoi moi j'ai dit, à ce stade, la vraie raison c'est les négociations entre opposition et majorité. Pas un format dialogue où il y aura beaucoup de personnes qui vont entrer pour que ce soit un parlement bis, et à ce stade-là, nous allons encore tourner en rond, on ne va pas trouver une solution parce que déjà, d'emblée, nous irons dans une transition. Mais dans cette transition, on doit se définir des responsabilités. Pourquoi en sommes-nous arrivés là-bas? Et que devons-nous faire pour ne plus reculer notre démocratie?
Merci Étienne. Professeur Bob Kalonji, Kabama plutôt, que faut-il pour débloquer le processus de dialogue et prévenir cette crise qui se profile à l'horizon? Il y a Étienne et Vivien Kalonji qui a proposé des négociations directes entre opposition et majorité. Vous pensez que ça pourrait débloquer la situation?
Non, je ne pense pas que ça va débloquer la situation, parce que il y a toujours les différents aspects qui concernent les différentes résolutions qui existent et qui mettent la communauté internationale aussi dans le jeu. Et donc, de mon point de vue, il est important de pouvoir, dans un premier temps, je pense, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a le facilitateur auquel on peut donner plus de pouvoir au groupe de soutien, c'est-à-dire qu'il ne soit pas uniquement dans un rôle de médiation, mais qu'il ait un rôle plus que des facilitations, ils aient un rôle de négociation, et en ayant un rôle de négociation, ils pourront amener la position de l'opposition qui veut prendre le pouvoir le 19 décembre, essayer de trouver le point, le dénominateur commun entre l'opposition qui veut prendre le pouvoir le 19 décembre et la majorité qui veut bien sûr organiser une espèce de processus dans lequel ils pourront rester encore un peu plus au pouvoir pour ramener ces différentes positions à une position commune et que cette position commune puisse être la feuille de route, non pas d'une transition, mais d'une feuille de route et qui puisse amener à ce qu'il puisse y avoir des élections crédibles et qui permettent de pouvoir avoir effectivement une nouveauté, un changement, une alternance politique telle que voulue par la Constitution.
Et en conclusion, professeur Bob Kabamba.
Et en conclusion, donc, ça nécessite faire facilitation avec le groupe de soutien comme négociateur. Et ce qui donnerait un poids beaucoup plus important au niveau de la communauté internationale pour déterminer justement le contenu et les cadres de discussion et pas laisser le contenu et les cadres de discussion à une seule partie. Lorsque c'est le cas, on a l'autre partie qui s'insurge et qui s'oppose et qu'on arrive à tourner en rond comme c'est le cas actuellement.
Merci.
En ayant cette dynamique internationale, elle pourrait imposer un calendrier à un cadre et tout le monde pourrait suivre.
Et également, là, qu'il faut-il pour prévenir la crise qui se profile à l'horizon? Il y a le récent rapport du groupe d'études sur le Congo qui dit 4 mois avant la fin du mandat du président Joseph Kabila, la RDC est à la veille d'une crise politique profonde. Le gouvernement est responsable de nombreux retards artificiels dans le processus électoral qui ont rendu impossible le respect de la Constitution et la tenue d'élections équitables et transparentes avant la fin de l'année. Comment faire pour prévenir cette crise?
Pour prévenir cette crise, je pense que quand même la majorité, le président de la République, doit des excuses à la République démocratique du Congo, à son peuple, dire, chers compatriotes, je n'ai pas organisé les élections, la CENI ne sera pas à même d'organiser les élections dans les délais constitutionnels parce qu'on ne lui avait pas donné des moyens logistiques, d'un bon calendrier et tout ça, alors que j'en avais la responsabilité politique, la responsabilité morale, vu notre crise, des excuses. Mais la majorité est en train justement de faire semblant de diluer sa responsabilité dans la crise actuelle en recommandant le dialogue comme une panacée. Or, le dialogue n'est pas une panacée parce qu'elle a fauté. Elle doit d'abord reconnaître son tort d'avoir bloqué ou même saboté le processus électoral pour essayer d'aller de l'avant.
Merci, Etienne Vivien Kalonji. Votre conclusion?
Oui, ma conclusion s'adresse auprès du camp des opposants. Je voulais leur dire que la fonction de la lutte non violente est de créer les conditions du dialogue ou des négociations. Il ne faut pas ici se cacher derrière le choix d'acceptation du facilitateur ou la proposition d'un groupe de facilitation, mais ici il faut tenir compte de l'organisation de la population à se prendre en charge dans une résistance active non violente.
Merci.
Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire.
Merci Étienne Vivien, merci, c'est la fin de l'émission. Merci, c'est la fin de l'émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique et merci à toute l'équipe Dialogue Grand Congolais sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Merci et bonne suite au programme sur Radio Capi.